Donc ça, c'est dans Sourate Az-Zukhruf. Donc il dit, le verset, il dit, lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je suis innocent de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, car c'est lui qui me guide. Ou plutôt, car c'est lui qui va me guider. Donc ici, on voit à peu près la signification du verset, il dit, أنه يخبر سبحانه عن عبده ورسوله وخليله أنه تبرأ من كل ما يعبد من كل ما يعبد أبوه وقومه. C'est-à-dire Allah nous informe ici dans ce verset à propos de son messager, son prophète, son Khalil Ibrahim, qu'il s'est désavoué de tout ce que son père et son peuple les adoraient. ولم يستثني إلا الذي خلقه وهو الله. Et il n'a pas fait d'exception sauf pour Allah. Ça veut dire il a dit, je n'adore pas ce que vous adorez sauf Allah. فَهُوَ يَعْبُدُهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ. Parce qu'il l'adore seul, sans lui associer quoi que ce soit. Parce que, en fait, si vous voulez, en arabe, quand on dit sauf, comme ici par exemple, il a dit, je suis innocent de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé. Ça peut laisser sous-entendre deux choses. Parce que en arabe, il y a l'istithna, al-munfasil, donc là, Abdel Qadir, Abdel Ali, ils comprennent. Ça veut dire en fait, ça peut être, je suis innocent de ce que vous adorez, même si eux à la base ils adorent pas Allah. En arabe tu peux dire sauf Allah. Pourtant Allah il est pas compris dans ce que eux ils adorent. Par exemple ils l'adorent pas, et pourtant il dit je n'adore pas ce que vous adorez. Donc et dans ça il y a pas Allah, et il dit sauf Allah. En arabe ça on peut le faire. En français Allah Alim je sais pas, mais en arabe on peut. Par exemple je dis par exemple, je parle à trois personnes dans lesquelles il n'y a pas Zayd. Et je dis en arabe, Ma da'autu ahadan minkum illa Zaydan. Je dis, j'ai pas invité l'un d'entre vous sauf Zayd. Et Zayd, il fait pas partie d'eux. En arabe, on peut faire ça. Donc en fait, le verset, il laisse sous-entendre qu'ils adoraient Allah ou alors qu'ils ne l'adoraient pas. C'est les deux sont possibles. Donc il dit, Munasabatul ayati lilbab. Pourquoi il a mis ce verset dans ce chapitre ? Et à partir de maintenant, je vais essayer de faire vite, Inch'Allah, et de me concentrer surtout sur ce qui est dit Shir, parce que sinon on n'avancera pas, parce qu'on est encore vraiment au début du livre. أنها دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو البراءة من الشرك وإفراد الله بالعبادة. Donc pour ceux qui ont le livre, il faut corriger les accents, il y a des fautes. فإن لا إله إلا الله تشتمل على النفي الذي عبر عنه الخليل بقوله إنني براء والإثبات الذي عبر عنه بقوله إلا الذي فطرني. Donc en fait ce verset nous montre que la signification du tawhid et de l'attestation la ilaha illallah, c'est le fait de se désavouer du polythéisme et c'est vouer l'adoration à Allah seul, ifradullah bil ibad. Parce que la ilaha illallah, elle comprend une négation, et cette négation c'est ce qu'on retrouve dans la parole d'Ibrahim quand il leur dit je suis innocent de ce que vous adorez. Ça c'est comme quand on dit la ilaha, donc on renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et dedans il y a une affirmation qui est illallah, c'est à dire comme on a renié l'adoration d'autre Allah, on affirme l'adoration et le droit à l'adoration à Allah. Et là c'est comme quand Ibrahim il a dit illalladhi fatarani, donc il a dit je renie, je suis innocent de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé. C'est comme la ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité sauf Allah. C'est la même chose. Ma yustafadu min al-aya anna ma'na la ilaha illallah tawhidullah bi ikhlas al-ibadati lahu wal bara'atu min ibadati kulli ma siwahu. Donc on profite de ce verset que la signification réelle de la ilaha illallah, c'est vouer sincèrement sa religion et son adoration à Allah seul, et se désavouer de l'adoration de tout ce qui est en dehors d'Allah. Idharul bara'ati min din al-mushrikin, le fait d'extérioriser le désaveu, la religion des polythéistes. Parce que là, Ibrahim dans le verset, il a bien extériorisé son désaveu. Il leur a dit, moi je suis désavoué ce que vous avez fait. Mashru'iyatut tabarri min a'da'illahi walau kanu aqrab an-nas. Il a dit ici le fait qu'il est légiféré de se désavouer des ennemis d'Allah, même s'ils sont proches, même si c'est des proches parents par exemple. C'est-à-dire qu'Ibrahim il n'aura pas dit Nashtami'u ala ma nattafiqu alayhi وَيُسَامِحُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ. Il n'aura pas dit ça à Ibrahim. Ibrahim, il aura dit إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. Ça, c'est la religion d'Ibrahim عليه السلام. وَقَوْلِهِ تَعَالَى اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Donc il a cité le verset ici qui dit: ils ont pris leurs moines et leurs prêtres ou leurs rabbins. En fait, al-ahbar, c'est chez les juifs, c'est les sages juifs, les savants juifs. Et rohban, de toute façon, il va l'expliquer ici, il dit ahbarahum ay ulama'ahum. Al-ahbar, c'est les savants. Wal rohban, al-ubbad. Et le rohban, c'est les moines, les ascètes, etc., ceux qui sont voués qu'à l'adoration. Donc ils ont pris, en gros, on va traduire, ils ont pris leurs savants et leurs adorateurs, leurs ascètes, comme arbab. Arbab, c'est le pluriel de rab, on peut traduire par seigneur. En français, ils traduisent par seigneur. On va dire par dieu. Ils les ont pris comme des dieux, en dehors d'Allah, ainsi que le Messie, fils de Marie, c'est-à-dire Isa, Jésus. Alors qu'ils n'ont été ordonnés que d'adorer une seule divinité, et il n'y a de divinité que lui. Subhanahu amma yushrikun. C'est-à-dire pureté à lui, ou alors qu'il soit élevé. Qu'il soit élevé, c'est plutôt ta'ala. Subhanahu, c'est pureté à lui, au-delà de ce qu'il lui associe. Donc ça, en fait, ça parle, donc Cheikh va dire ici, المعنى الإجمالي للآية يخبر الله سبحانه عن اليهود والنصارى. Donc Allah nous informe à propos des juifs et des chrétiens. أنهم استنصحوا الرجال من العلماء والعباد فأطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله. C'est-à-dire que les juifs et les chrétiens, ils ont demandé conseil à leurs savants et leurs adorateurs, et ils leur ont obéi dans le fait de rendre licite ce qui est interdit, alaykoum salam wa rahmatullah, et le fait d'interdire ce qu'Allah il a autorisé. فَنَزَّلُوهُمْ بِذَلِكَ مَنْزِلَةَ الرَّبِّ الَّذِي مِنْ خَصَائِسِهِ التَّحْلِيلُ وَالتَّحْرِيمُ. En faisant ça, ils les ont mis à l'égal de Ar-Rab, c'est-à-dire à l'égal d'Allah, parce que parmi les caractéristiques d'Allah, il y a le fait de déclarer licite et déclarer illicite. Donc si toi tu fais ça, tu donnes ce droit à quelqu'un de déclarer licite ou illicite, en ce qui concerne la religion, ça c'est important, ça veut dire que c'est dans la religion, dans la croyance, que la personne elle déclare ça dans la religion, c'est licite, et ça c'est licite en dehors d'Allah, alors tu l'as mis à l'égal d'Allah. Parce que le fait de déclarer, donc là c'est ma parole, là, le shiri s'arrête à dire, ils les ont mis à l'égal du Seigneur, de Ar-Rab, du Dieu, parce que parmi dont une des caractéristiques, c'est le fait de déclarer licite et déclarer illicite. Pourquoi en fait? Et c'est pour ça que dans le verset, il n'a pas dit, ils l'ont pris comme Aliha, comme divinité. Il aurait pu mettre au pluriel le mot Aliha, mais il a mis le mot Arbab. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui donne le droit à quelqu'un de déclarer licite ou illicite les choses dans la religion, il lui a donné une caractéristique de Ar-Rububiyya. Parce que Ar-Rububiyya, parmi les caractéristiques d'Ar-Rububiyya, c'est le fait de contrôler. Et le fait d'Al-Qada, c'est le fait de décréter. Que ce soit dans Al-Qada ou Al-Kawni, ça veut dire le décret universel, le fait de destiner quelque chose, ou alors Al-Qada ou Al-Shari, le fait de décréter quelque chose dans la loi, et non pas dans le destin. Mais décréter quelque chose dans la religion et dans la loi. Ça, c'est un droit de celui qui détient les cieux et la terre. Et ça se rapproche plus à Ar-Rububiyya qu'al Uluhiyya. C'est pour ça qu'Allah il a dit ittakhadhum arbaban. Il n'a pas dit ittakhadhu alihatan. Ils l'ont pris comme Rab. Parce que le mot Rab, il s'accroche plus aux significations de celui qui possède les cieux et la terre et qui a le droit de légiférer. Kama abada an-nasara Isa wa za'amu annahu ibnullah. Comme les chrétiens ont adoré Isa, et ils ont prétendu qu'il était le fils d'Allah. C'est-à-dire, c'est à la même position, le fait de prétendre que Isa est le fils d'Allah, et le fait de déclarer que quelqu'un il a le droit de déclarer licite ou illicite, c'est l'adorer au même point. فَنَبَذُوا كِتَابَ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَهُمْ فِيهِ بِطَاعَتِهِ وَحْدَهُ وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ وَهَذَا. Donc ils ont jeté le livre d'Allah, dans lequel il leur a ordonné d'obéir à lui seul, et de l'adorer lui seul. وهذا إخبار منه سبحانه يتضمن إنكار ما فعلوه Et ça, c'est une information, un récit qu'il y a dans le Coran qui contient en fait al-inkar, ça veut dire le blâme vis-à-vis de ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'Allah à la fin il a dit subhanahu, c'est-à-dire il s'est élevé au-delà de ce qu'ils ont fait eux, au-delà de ce de, comme shirk et comme polythéisme. مناسبة الآية للباب أنها دلت على أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله بالطاعة في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم. Pourquoi il a mis ce verset ici dans le chapitre qui sert à expliquer le tawhid? C'est parce que ce verset nous indique que la signification du tawhid et de la ilaha illallah, c'est aussi, ou plutôt parmi ses significations, le fait d'obéir à Allah seul dans ce qui est licite et ce qui est illicite. وأن من اتخذ شخصا من دون الله يحلل ما أحل ويحرم ما حرم فهو مشرك. Et que celui qui prend une personne en dehors d'Allah, qui déclare licite ce qui est illicite par exemple, ou qui interdit, c'est-à-dire il déclare des choses licites et il déclare des choses illicites, il légifère, ça c'est un mushrik. Donc que ce soit chez, dans un shirk ou quoi que ce soit, c'est un mushrik. Mais les ulama ils disent bien sûr s'il a conscience de ce qu'il fait, ça veut dire il sait que le shirk là à ce moment là ce qu'il fait c'est diverge du livre. Mais si lui c'est un ami qui fait confiance à tel shirk parce qu'il est connu pour être un savant, là on dit pas c'est un mushrik. Parce qu'il s'est trompé, et là, la shubha, c'est quoi? C'est que cet homme, il est connu pour être un savant. Donc lui, à aucun moment, il se dit, moi je le prends comme quelqu'un qui a le droit de légiférer en dehors d'Allah. Mais c'est juste qu'il croit que c'est un savant, donc il le suit comme ça aveuglément. Et il peut tomber dans le péché parce qu'il n'a pas fait d'effort. Mais de là à dire que c'est un mushrik, non. Le mushrik, c'est celui qui suit, c'est-à-dire sciemment, quelqu'un qui légifère dans la religion en dehors d'Allah. Donc par exemple, tel l'alim à la parabole, ou alors à la radio, et on lui dit ma hukmu al-halif bi ghayrillah, comme il raconte à Shir dans une cassette, quel est le jugement de celui qui jure par autre qu'Allah? Et il lui dit nahnu la nara fi dhalika ba'san, nous voyons qu'il n'y a pas de mal à cela. Et la femme qui a appelé, elle lui dit Shir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, et lui il continue, il dit nahnu la nara fi dhalika ba'san. Donc là c'est du shirk, parce qu'il légifère dans la religion d'Allah alors qu'il sait que ça contredit ce qu'il a légiféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si il pense que ça a été ramené authentiquement du prophète. Maintenant s'il dit ouais mais le hadith il est faible, ça c'est autre chose. Là on parle de quelqu'un qui suit avec connaissance de cause une personne qui déclare haram ce qu'Allah il a déclaré halal, etc. Et là ce qui vient tout de suite à l'esprit des gens, c'est les gouverneurs. Ça veut dire ils disent, c'est-à-dire ça concerne le fait de juger par autre que les lois d'Allah. Et donc directement, ils disent, par rapport à ce verset, donc celui qui juge avec autre que les lois d'Allah, c'est un kafir absolument. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il pense, quoi qu'il dise. Mais il faut comprendre, et ça, vous pouvez le lire, mais je n'ai pas de référence à vous donner, si ce n'est ce qu'il dit Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Al-Albani. Mais il le tire de livre d'Ibn Qayyim et d'Ibn Taymiyyah, mais je ne sais pas exactement, j'ai lu les morceaux, mais je ne pourrais pas vous dire dans tel tome, tel livre, etc. Où il explique que ça, c'est dans la religion. Ça veut dire quelqu'un qui viendra déclarer, voilà, ça c'est halal dans la religion, dans le sens où celui qui fait ça ne porte pas de péché. Ou alors celui qui fait ça porte un péché. Et au jour du jugement, il peut être châtié. Contrairement à ce qu'Allah il a déclaré. Là, il a jugé par autre que le roi d'Allah, et c'est du kufr akbar. Mais si il le fait et il dit dans mon pays vous pouvez boire de l'alcool, mais si tu lui demandes est-ce que l'alcool c'est haram, il va te dire oui. Ça veut dire vous pouvez pas dans le waqir, dans la réalité, vous pouvez, je vous laisse, mais dans la religion, donc différence entre ce que je vous laisse faire et dans la religion, c'est-à-dire il laisse boire l'alcool, mais si on lui demandait est-ce que c'est haram, il va dire oui. Ah là c'est pas du kufr akbar. Vous avez compris la différence, grosse différence entre ce qu'il fait dans son jugement et la religion. Ça parle de des gens, parce que les juifs et les chrétiens, ils ont pris les moines et les adorateurs et les savants comme légiférateurs dans la religion. Donc il ne faut pas confondre cette surah, c'est-à-dire le contexte de ça, et le contexte de quelqu'un qui juge avec autre que les lois d'Allah. Parce que les ulama, donc ils ont bien montré que celui qui juge avec autre que les lois d'Allah, il y a une exception où il n'est pas, on ne le juge pas mécréant. C'est si il sait que il considère lui-même que ce qu'il fait c'est interdit, mais il le fait pour une shahwa ou pour des biens d'ici-bas, etc., etc. Et ça, c'est pas seulement dans le cas où ce serait un juge qui juge dans une question ou une deuxième question. Même si certains ulama, ça il faut le savoir, certains ulama ils l'ont dit ça. Comme par exemple Mohamed Ibrahim Al-Sheikh, le mufti d'avant Sheikh Abdelaziz Moubaz. Ça je le dis pour pas que vous entendiez, dès que quelqu'un dit celui qui juge avec autre que l'ordre d'Allah c'est un kafir, vous dites c'est un takfiri. Ça c'est faux. C'est pas forcément quelqu'un qui a un madhab takfiri. Parce qu'il y a des ulama du Najd qui disent ça. Ahl Sunna, ils disent à partir du moment où une personne elle prend comme référence pour juger son pays autre que la loi d'Allah, c'est un kafir. Parce qu'ils disent il a pris une loi autre que celle d'Allah comme référence. Mais la vie véridique, Wallahu A'lam, qui est montrée par les preuves et la parole des ulama de différents siècles, et notamment à notre époque, Cheikh Abdelaziz Moubaz, Uthaymin et Cheikh Al-Albani, c'est que dans le cas où la personne est jugée avec autre que la loi d'Allah, elle ne devient pas mécréante automatiquement. C'est-à-dire, il faut pour qu'elle soit mécréante, qu'elle considère que ce jugement, il est licite. Ça lui est licite de juger avec autre que les lois d'Allah. Ou alors, que les lois qu'il est en train d'appliquer, que ce soit la constitution française ou anglaise ou Napoléon, etc., elle est mieux que la loi d'Allah. Ou alors que la loi d'Allah, elle est plus bonne pour cette époque. Là, ouais, c'est un kafir. Mais s'il dit non, moi je sais que la loi d'Allah, c'est ça qui est obligatoire. Et c'est ça qui est mieux. Et c'est ça qui est adéquat pour chaque époque. Mais il fait ça pour des pressions, ou alors pour rechercher un bien d'ici-bas, une position. Là, c'est un fasiq, c'est un péché. C'est pour ça qu'Allah, dans le Coran, il a cité trois. Il a dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dans un autre, il a dit الظَّالِمُونَ. Dans un autre, الْكَافِرُونَ. Donc, il y a trois degrés, et qui s'appliquent à différents cas. Et je vous renvoie pour ça au livre de... Donc, à ce qu'ils ont expliqué, Cheikh Al-Bani, Cheikh Ibn Baz, etc. Donc j'en suis où, non ? Ouais, man yustafadu min al-aya. Donc c'est important ça, qui fait partie du tawhid, le fait d'obéir à Allah dans ce qui est, ça fait partie de la ilaha illallah, l'obéissance et le droit à la légifération, ça on doit le vouer à Allah seul. Anna man ata'a makhluqan fi tahlil al-haram wa tahrim al-halal faqad ittakhadahu sharikan lillah. Celui qui obéit à une des créatures dans le fait de déclarer licite ce qui est interdit ou de déclarer interdit ce qui est licite, celui-là il l'a pris associé à Allah pour ce qu'on a expliqué, parce que la légifération c'est un droit d'Allah. Et comme on a dit, ça c'est pas pour, par exemple, ça c'est au cas où la personne elle est consciente ce makhlouq, ce savant ou plutôt ce soi-disant savant ou cet ascète ou etc. ou ce shirk, il contredit la parole d'Allah. Mais une personne qui sait pas lire, qui connaît rien, et elle suit un tel à la parabole parce que tout le monde autour de lui depuis qu'il est petit lui dit que c'est un savant, et lui il rend licite ce qu'Allah interdit clairement, c'est-à-dire par un hadith authentique ou un consensus des musulmans, et dans une question sur laquelle il n'y a pas de divergence, la personne qui le suit aveuglément elle porte à péché parce qu'elle n'a pas fait d'effort. Mais de là à dire qu'elle fait du shirk, non. Le shirk c'est celui qui dit mon shirk, quand il dit ça c'est halal, même que ça contredise que ce que tu veux de Bukhari ou de Muslim ou de consensus ou quoi que ce soit. Comme ils font, et ça c'est présent beaucoup chez les tariqas soufis. C'est-à-dire le soufi, dans beaucoup de cas, si le shirk lui dit ça, le hashish c'est halal, parce que ça te fait arriver à des degrés, etc. Même si il sait que c'est haram dans la religion, il va dire là c'est spécial, shirk lui il a le droit de déclarer licite, ça c'est un mushrik, et il sort de l'islam, ça c'est du shirk akbar. الرد على النصارى في اعتقادهم في المسيح عليه السلام وبيان أنه عبد الله. Donc il y a une réplique aux chrétiens dans leur croyance à propos d'Isa. Et Allah il montre dans ce verset que c'est un Abdullah, c'est une créature d'Allah, un serviteur d'Allah. تنزيه الله عن الشرك. Le fait d'élever Allah et de déclarer la pureté d'Allah vis-à-vis du shirk. وقوله تعالى. Donc regardez dans le premier verset, il nous a montré, parce que quand vous lisez Kitab Tawhid comme ça sans explication, ce chapitre là ça c'est un des chapitres qui pose le plus problème, parce qu'on comprend rien. Il met un verset qui parle de ça, un verset qui... En fait le premier verset il montre que le vrai tawhid c'est aussi, et le shirk plutôt, le vrai shirk le vrai tawhid, c'est tawhid al-uluhiyya. C'est ça l'important dans le tawhid. Et que ce qui le contredit, c'est de vouer l'adoration à autre qu'Allah, même si c'est des prophètes, des anges ou des hommes pieux. Ce verset, il montre maintenant une autre partie du tawhid, qui est le fait de déclarer le droit à la légifération à quelqu'un. Ça aussi, ça rentre dans le tawhid. Donc ça, c'est... Et ça, après, en fait, ça, c'est qu'un préambule. Et dans le livre, il va reparler, en fait, de tous les sujets qui sont dans, dans ces quelques versets. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله. Donc il n'y a pas mentionné ici, Cheikh. En fait, il y a une histoire vis-à-vis du verset là. Quand Allah il parle des juifs et des chrétiens, un sahabi qui s'appelait Adi ibn Hatim, qui était un chrétien converti à l'islam, et quand le prophète صلى الله عليه وسلم il a lu ce verset, il a dit on n'adore pas les moines et les rabbins. Il a dit en fait il ne comprend pas ce verset. Il dit nous en tant que chrétiens on ne faisait pas leur adoration. Et le prophète il a dit n'est-ce pas que quand il déclarait une chose licite vous la déclariez licite, et s'il déclarait une chose illicite vous la déclariez licite. Il a dit oui c'est vrai. Ça veut dire on les suivait en disant halal haram quoi qu'ils disent. Et il a dit tilka ibadatuhum, ou alors tilka ibadatuhum iyahum, voilà leur adoration. Donc ça veut dire, il a mis au même point, c'est aussi une adoration, le fait de déclarer à quelqu'un le droit de légiférer absolument. Même s'il ne se prosternait pas devant eux, etc., etc. Parce que lui, quand il a dit on ne les adorait pas, il voulait dire on ne leur fait pas de sacrifice, on ne se prosterne pas devant eux, etc. Mais c'est une autre forme d'adoration, c'est le fait de déclarer le droit à légiférer. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. Il a dit donc dans l'authentique, c'est-à-dire dans Muslim, selon le prophète صلى الله عليه وسلم, qui a dit celui qui dit لا إله إلا الله et qui mécroit ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang sont interdits et son compte est à Allah Azza wa Jal. Donc Cheikh dit yubayyinu sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadith annahu la yahrumu qatlu al-insani wa akhdhu malihi illa bi majmu'i amrayn. Donc en fait il montre ici que la personne elle est sacrée, son bien et son sang sont sacrés avec deux choses. Al-awwal qawlu la ilaha illallah, la première c'est le fait qu'ils disent la ilaha illallah. Donc il n'y a pas que dire la ilaha illallah. Ça c'est une choubha, et ça il en parle beaucoup cher dans Keshf al-Shubuhat. Le fait de dire les wahhabites ils déclarent tout le monde mécréant alors que les gens ils disent la ilaha illallah. Et ça c'était la choubha des ennemis de la da'wah Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah à l'époque. Ça veut dire ils disaient nous on est des gens, on dit la ilaha illallah, comment vous pouvez nous faire la guerre? Parce que Muhammad ibn Abdul Wahhab il s'est allié avec Muhammad ibn Saoud. Mohamed ibn Abdullah il avait la force et la da'wa. Mohamed ibn Saoud lui il avait la force, il avait plutôt l'ain, et Mohamed ibn Saoud lui il avait la force, c'était un gouverneur. Donc ils sont alliés à deux pour faire la da'wa. Ils ont déclaré le djihad à tous les gens de la péninsule arabique. Pourquoi? Parce que ces gens ils faisaient du shirk akbar, ils adoraient les tombes, etc., etc. Et leur choubha c'était de dire à Mohamed ibn Abdul Wahhab comment vous nous déclarez mécréants alors qu'on dit la ilaha illallah. Mais il faut savoir que dire la ilaha illallah ça suffit pas si on fait tout ce qu'on veut derrière. C'est pour ça il dit Cheikh, il a bien dit, il y a deux choses. La première c'est dire la ilaha illallah, et la deuxième il a dit al kufru bima yu'badu min dunillah, la mécréance en ce qui est adoré en dehors d'Allah. Fa idha wujida hadhan al amran wajaba al kufu anhu zahiran wa tafwid batinihi ila Allah. Et quand ces deux choses sont présentes chez la personne, alors, il faut absolument s'écarter de lui. C'est-à-dire, là on parle dans un contexte islamique, s'écarter de lui, ça veut dire il est sacré. C'est bien, ils sont sacrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il est considéré comme musulman. En apparence, et en ce qui concerne son fort intérieur, ça on le laisse à Allah. Et ça, quand vous regardez, c'est exactement le hadith. Parce que le prophète, il a dit, celui qui dit la ilaha illallah, donc il a cité le fait de dire la ilaha illallah, et qui mécroit à ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc ça c'est une condition. Ça veut dire que si la personne elle dit la ilaha illallah, elle dit rentrer dans l'islam ou elle s'apparente à l'islam, walakinaha la takfuru bima yu'badu min dunillah, mais qu'elle ne mécroit pas à ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et comment on sait qu'elle ne mécroit pas à ça? Ah ben c'est parce qu'elle se prosterne devant les tombes, elle tourne autour des tombes, elle demande l'intercession aux morts, elle demande aux morts, elle voue des adorations aux morts. Donc cette personne, elle n'est pas musulmane et elle n'est pas rentrée dans l'islam. Donc elle doit remplir la condition. La simple parole la ilaha illallah, et ça je l'ai répété 100 fois, l'islam c'est pas un club, quand tu dis une parole, tu rentres dedans. L'islam c'est dire une parole avec ses conditions. Ça veut dire si la parole elle dit, si la personne dit la ilaha illallah, mais elle ne remplit pas les conditions de l'islam, elle ne rentre pas dans l'islam. Donc ça c'est une réponse, et Cheikh il l'a bien détaillé dans Keshf al-Shubuhat, pour répondre à ses ennemis à l'époque qui leur disaient comment vous nous déclarez la guerre alors qu'on dit la ilaha illallah. Et Mohammed ibn Abdullah, donc toute sa da'wa c'était de montrer que la personne elle ne doit pas suffire de dire la ilaha illallah alors qu'à côté elle adore en dehors, autre qu'Allah. Elle dit la ilaha illallah et elle le contredit avec ses actes et avec sa aqida. Donc cette personne c'est comme si elle n'avait pas dit la ilaha illallah. Et donc parmi leurs shubuhat aussi, et Cheikh il le cite à la fête que shubuhat, le hadith de Oussama ibn Zayd, quand Oussama ibn Zayd, donc il était pendant la guerre, et il avait en face de lui un mushrik. Et le mushrik, quand il a vu Oussama ibn Zayd qui avait le pouvoir sur lui, il a dit la ilaha illallah. Et Oussama ibn Zayd il l'a tué. Quand le prophète il a été informé de ça, il lui a dit, est-ce que tu l'as tué alors qu'il a dit la ilaha illallah? Et il répétait ça. À tel point qu'Oussama ibn Zayd il a dit, j'aurais préféré ne pas être converti avant ce jour-là. Ça veut dire le prophète il l'a blâmé de l'avoir tué alors qu'il a dit la ilaha illallah. Donc plein de gens ils disent, donc tu dis la ilaha illallah, ça y est. Mais ça veut pas dire tu dis la ilaha illallah et quoi que tu fasses, ça y est, t'es musulman. Parce que dans le hadith d'Oussama ibn Zayd, la personne elle a dit la ilaha illallah. Mais est-ce qu'elle l'a contredit? Pour qu'Oussama ibn Zayd il ait droit de la tuer, sachant que ça c'était un temps de djihad. Est-ce qu'elle a contredit sur la ilaha illallah? Elle l'a pas contredit. Elle l'a pas contredit. La personne elle dit la ilaha illallah, tout ce qui t'est demandé c'est comme ici il a dit le prophète, wa hisabuhu ala Allah. C'est-à-dire la personne elle dit la ilaha illallah, son jugement extérieur c'est que c'est un musulman. Tant qu'il contredit pas la ilaha illallah par sa aqida ou ses actes. C'est-à-dire en adorant un mort, etc., etc. Je dis en adorant un mort parce que c'est ça souvent qui apparaît chez les gens, ou en rapportant quelque chose qui annule l'islam. Donc il dit, فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فِي قَلْبِهِ جَازَاهُ بِجَنَّاتِ النَّعِيمِ. Maintenant la personne, si elle a dit la ilaha illallah et elle ne l'a pas contredit avec ses actes, c'est-à-dire en apportant une mécréance apparente, alors si nous on se contente de ça et on la juge musulmane, si elle est véridique au fond d'elle, Allah il la récompensera par le paradis. وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا عَذَّبَهُ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ. Et si c'est un munafiq, ça veut dire il fait ça en apparence mais au fond il cache la mécréance, Allah il le châtiera du châtiment douloureux. وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا فَالْحُكْمُ عَلَى الظَّاهِرِ. Mais en ce qui concerne ici-bas, il reste un musulman à l'extérieur, parce que le jugement il se fait عَلَى الظَّاهِرِ, ça veut dire l'apparence. Et le prophète à aucun moment il nous a demandé de chercher ce qu'il y a dans les cœurs des gens, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il connaissait certains noms des hypocrites. Quand on dit hypocrites, c'est des vrais hypocrites qui étaient des mécréants qui extériorisaient l'islam. Et est-ce qu'il en a informé les musulmans? Non. Il avait juste Hudhayfah ibn al-Yaman, qu'on appelait Sahib al-Sir, et il a révélé à Hudhayfah ibn al-Yaman le nom de ces gens-là. Et il ne l'a pas révélé au reste de sa communauté. C'est parce que les gens, ils ont pas été mukallafin, c'est-à-dire responsables et ordonnés par le fait de connaître ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Ce qui est demandé aux musulmans, c'est de suffire de l'extérieur. C'est pour ça que le prophète il n'a pas informé du nom des hypocrites. À tel point que, même à la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Hudhayfa il n'a pas informé du nom des hypocrites. Et donc, comme ça a été rapporté dans la Sira, ou dans l'histoire, ils disent que les Sahaba, quand il y avait quelqu'un qui mourait, ils regardaient est-ce que Hudhayfa ibn al-Yaman il prie sur lui ou pas. Donc, regardez comment Hudhayfa ibn al-Yaman il ne faisait pas une annonce aux gens, oh vous les gens, je vous informe que celui qui est mort là, en fait, c'était un munafiq. Il laissait les gens le laver et prier sur lui. Pourquoi? Parce que ce qu'il demandait, c'est de juger sur l'extérieur. Même si lui, il savait qu'en fait, les gens, ils étaient en train de prier sur un kafir. Et pourtant, il ne les a pas informés. Donc, ce qui est voulu du musulman, c'est de juger sur l'extérieur. Et tant que la personne, elle n'amène pas un aqid, min nawaqid l'islam, c'est-à-dire un acte ou une aqida, à l'extérieur d'une aqida, qui est de la mécréance claire, alors on le juge sur son apparence. مناسبة الحديث للباب. Donc pourquoi il a mis hadith ici? أنه من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله وأنه الكفر بكل ما يعبد من دون الله. Donc parce que dans ce hadith, il y a une des plus grandes démonstrations de la signification de la ilaha illallah, comme quoi la ilaha illallah c'est le fait de mécroire à ce qui s'adore en dehors d'Allah. Ensuite il dit ما يستفاد من الحديث. Donc qu'est-ce qu'on profite du hadith? أن معنى لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها. Donc le fait que la ilaha illallah c'est mécroire à ce qui s'adore en dehors d'Allah parmi l'asnam. Et l'asnam, on avait dit, c'est ce qui est sculpté sous la forme d'un animal ou d'un être humain, ou alors les tombes ou autre que cela. أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم الدم والمال ولو عرف معناها وعمل به ما لم يضف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. C'est yudif, c'est pas yadif, c'est adafa. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc aussi il dit Cheikh Al-Fawzan, on profite du hadith que le simple fait de prononcer la ilaha illallah sans mécroire à ce qui s'adore en dehors d'Allah, ça ne rend pas les biens et le sang de la personne sacrée, c'est-à-dire ça ne rend pas musulman. Même s'il connaît la signification de la ilaha illallah et qu'il agit selon sa signification. C'est-à-dire une personne maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il dit ici? Ça veut dire une personne, elle sait que la ilaha illallah, ça implique ce que ça implique. Et elle n'adore pas autre qu'Allah. Mais si tu lui poses la question, est-ce que tu mécrois ce qui adore en dehors d'Allah? Il dit non. Et il dit, c'est-à-dire, il le rend licite. Et il déclare que c'est possible. Et il déclare pas mécréant celui qui adore autre qu'Allah. Celui-là, il n'a pas ramené le kufr bit-tarut. Et le kufr bit-tarut, ou le kufr bima yu'abadu min dunillah, shart fi la ilaha illallah. Donc lui, il n'est pas musulman. Même si, Cheikh, il dit bien, walau arafa ma'naha wa amila bihi. Même s'il connaît la signification de la ilaha illallah et qu'il agit en conséquence, s'il ne mécroit pas à ce qu'il adore en dehors d'Allah, et ça, c'est une porte large. Parmi aussi, ça rentre dedans, je le dis ici parce que dans la fac, il y a beaucoup de gens comme ça, ça rentre dedans le fait de déclarer les juifs et les chrétiens non musulmans, mécréants, et de mécroire à leur religion. Parce qu'à la fac, il y en a beaucoup des gens comme ça. Ils te disent, ouais, mais les juifs et les chrétiens, il ne faut pas dire c'est des mécréants, il faut dire c'est des juifs et des chrétiens. C'est pas des koufars, c'est Ahlul Kitab. Alors qu'Allah, dans son livre, il a dit, فَمِنْكُمْ كَافِرُونَ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنَ. Parmi vous il y a le mécréant, parmi vous il y a le croyant. Il n'a pas mis une troisième catégorie. وَمِنْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ. Ça c'est pas écrit dans le Coran. Et Allah il a dit dans le Coran, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. On mécru ceux qui ont dit Allah est le troisième de trois, c'est-à-dire les chrétiens. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. On mécru ceux qui ont dit Isa et Allah c'est le fils de Maryam, c'est-à-dire Allah c'est Isa. Et aussi Allah il dit dans surat An-Nisa, إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Donc c'est-à-dire ceux qui mécroient à Allah et ses prophètes et qui différencient entre Allah et ses prophètes et qui disent nous croyons en certains et nous mécroyons en certains, est-ce que ça c'est pas les gens du livre qui font ça? Et qui veulent prendre un chemin intermédiaire à cela, c'est quoi la fin du verset? Oulaika humul kafiruna haqqa. Donc il a mis al kafirun, donc ce sont les mécréants haqqan, en vérité. Donc comment quelqu'un il va dire après non, il a dit ils ont mécru ou c'est du kufr asrar? Ça c'est les vrais mécréants, Allah il les a qualifiés, ceux qui croient en une partie des prophètes et qui mécroient au reste. Et ça, c'est exactement la définition d'Ahl al-Kitab. Ils disent, on croit à Isa et à tout ce qui est avant, mais pas à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors, ils disent, on croit à Moussa et tout ce qui est avant, mais Isa et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on n'y croit pas. C'est quoi leur qualification dans le Coran? Est-ce qu'il a dit, ha'oula ikhwatukum? Ceux-là, c'est vos frères en religion, et c'est des croyants, et leur religion, elle est valable, et ils vont au paradis? Non, il a dit, oulaika humul kafiruna haqqa. Ce sont les mécréants en vérité. Et donc il rentre dans la parole d'Allah. Wa ma kana li mu'minin. Non, pardon, c'est quoi? ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين. Il n'appartient pas au prophète et à ceux qui ont cru avec lui de demander pardon pour les mushrikin. Donc celui qui dit Al-Baba rahimahullah wa rahmatullah alayh wa ni'am al-Baba, et qu'Allah ramène un pape comme lui et qu'il lui fasse miséricorde, il a contredit Allah et son prophète. Et en vérité, c'est un défi, c'est une moquerie claire de la religion. C'est-à-dire, c'est une contradiction claire et apparente à une chose qui est en arabe ma'loumun min ad-din bid-darura, quelque chose qui est évident dans la religion islamique et qui fait partie des bases de l'islam. C'est-à-dire takfir al-yahoud wa nasara, le fait de croire que Ahl Kitab ne sont pas musulmans et sont mécréants. Donc ici il dit qu'après أن من أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. Donc là c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que celui qui vient avec le monothéisme et qui s'accroche à ses règles شرائعه, c'est-à-dire ce qui est apparent au tawhid, et par, donc beaucoup d'ulama ils disent parmi ça la salat en apparence, alors celui-là il faut s'en écarter, c'est-à-dire il est sacré jusqu'à ce qu'il apparaissent de lui ce qui contredit le tawhid, c'est-à-dire un aqid min nawaqid l'islam, quelque chose qui fait sortir de l'islam, comme le fait de dire que muhim nawaqid l'islam, parmi lesquels le shirk, le fait de d'associer à Allah dans l'adoration. Ça aussi ça correspond au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit man istaqbala qiblatana wa akala dhabihatana. Je crois au début, c'est من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. Celui qui prie notre salat et qui se dirige dans notre qibla et qui mange ce qu'on égorge, voilà le musulman. C'est-à-dire, on juge selon les apparences. وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. Le fait qu'il est obligatoire de s'écarter du mécréant quand il rentre dans l'islam, même en cas de djihad. Ça il fait mention du hadith d'Oussama ibn Zayd que j'ai cité tout à l'heure, jusqu'à ce qu'il extériorise ce qui contredit son islam.
Anna al-insana qad yaqul la ilaha illallah wa la yakfuru bima yu'badu min duni.
Aussi on profite de ce hadith qu'un être humain il peut dire la ilaha illallah sans mécroire à ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est-à-dire que c'est possible dans la réalité. Et c'est plus que possible, c'est présent, et beaucoup même.
أن الحكم في الدنيا على الظاهر وأما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد.
Le fait que le jugement ici-bas, le jugement ça veut dire juger la personne comme musulmane ou mécréante, il est ici-bas sur l'extérieur. Et dans l'akhira, il est sur les intentions et le but. C'est-à-dire qu'ici-bas on juge sur l'extérieur, mais la personne dans l'au-delà sera considérée par rapport à ce qu'elle avait ici. Est-ce qu'elle cachait le kufr ou l'islam, etc.
حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ وَدَمِهِ إِلَّا بِحَقٍ.
Le fait que les biens et le sang d'un musulman sont sacrés, إِلَّا بِحَقٍ, sauf de bon droit, c'est-à-dire sauf ce qui a été expliqué dans les hadiths.
وَمَعْنَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَشَرْحُ هَذِي التَّرْجَمَةِ وَمَا بَعْدَهَ مِنَ الْأَبْوَابِ.
Ensuite il dit, quand Mohammed ibn Abdelwahab il a dit à la fin du chapitre, l'explication de ce chapitre sera ce qui est après comme chapitre. Donc j'ai un peu traduit bizarre. En fait, il dit wa sharhu hadhi tarjama, c'est-à-dire l'explication de ce chapitre, de ce titre, ma ba'daha min al-abwab, c'est ce qui viendra après comme différents chapitres. Donc il dit
anna ma ya'ti ba'da hadha al-bab min al-abwab fihi ma yubayyin at-tawhid wa yuwaddihu ma'na la ilaha illallah.
C'est que le fait que tous les chapitres qui vont venir après, ils ne font que démontrer le tawhid et éclairer la signification de la ilaha illallah.
Wa bayanu ashiya'in kathiratin min ash-shirk al-asghar wa al-akbar.
Et dedans il y a une démonstration de beaucoup de choses qui sont comprises dans le shirk majeur et mineur.
Wa ma yuwassilu ila dhalik min al-ghuluwi wal bida'i mimma yajibu tarkuhu min madmun la ilaha illallah.
Et aussi ce qui ramène au shirk, que ce soit akbar ou asghar, petit ou grand, parmi le roulou, l'exagération et les innovations qu'il nous est obligatoire de délaisser.
Min madmoun ila ilaha illallah.
Les trois derniers mots, je ne vois pas ce qu'il veut dire, mais en tout cas, ce qu'il veut dire, c'est que la fin du chapitre, quand il a dit, en fait, tout le reste de Kitab Tawhid, ça va être un détail de ce chapitre-là, qui est l'explication de la ilaha illallah. Alors, donc, il commence, en fait, c'est comme là, le livre, quelque part, il recommence. Là, il va commencer à nous montrer, chose par chose, qu'est-ce qui fait partie du shirk, qu'est-ce qui contredit le Tawhid, etc. Donc, il dit, Baboun. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. Donc il dit, chapitre, il fait partie du polythéisme, c'est-à-dire du shirk, le fait de porter al-hilqa, et ça c'est tout ce qui ça, ça concerne tout ce qui est rond, ça veut dire comme bracelet, comme collier. Wal-khayt, donc al-khayt, ça c'est je sais pas comment on peut traduire al-khayt. Un fil, ouais, mais. En plus, ici, Cheikh, il n'explique pas. Al-Khayt, ouais, c'est. Je sais pas, Allah. Parce qu'Al-Khayt, c'est un fil. Mais en fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que c'était exactement comme fil qu'il mettait à l'époque. J'ai oublié ce que. Mais en fait, parce qu'ici, ce qui est important, c'est que dans le titre, il dit Wa nahwihima. Est-ce qu'il est à l'exemple de ça? À l'exemple des bracelets, des colliers et des fils. لِرَفْعِ الْبَلَاءِ أَوْ دَفْعِهِ. Pour enlever al-bala, ça veut dire un malheur, une épreuve, ou pour le repousser. Pour l'enlever, ça veut dire une fois qu'il est arrivé, ou pour le repousser, ça veut dire avant qu'il arrive. Donc ici, il n'a pas voulu montrer qu'il fait partie du polythéisme, seulement le fait de porter un bracelet pour se protéger. Et que si c'est un pneu de voiture devant la maison, tu as le droit. Non. Parce qu'il a bien dit wa nahwihima, et ce qui est à l'exemple de ces choses-là. Donc là, en fait, c'est un chapitre pour montrer qu'il fait partie du polythéisme, tout ce qui se porte ou qui s'accroche pour repousser le malheur ou pour enlever le malheur quand il est déjà arrivé. Donc si des fois dans les hadiths vous lisez un terme précis comme al-huruz ou des trucs comme ça, ça ne veut pas dire que c'est que ça qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est ça et tout ce qui est semblable. Parce que le prophète, lui, il interdisait. Des fois, il parle de ce qui est présent à son époque. Ce que les gens ils font à son époque. Mais à d'autres époques, ça va être autre chose. Maintenant, les gens, ils prennent des fers de cheval, ils prennent des pneus devant la maison, les mains de Fatima, avec un œil devant, etc., etc. Donc, il dit, وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Donc il a cité le verset où Allah il dit, est-ce que vous avez vu ce que vous adorez en dehors d'Allah? Donc tad'oun, ça peut être vous adorer ou vous invoquer. On l'a déjà expliqué. Si Allah me voulait un mal, est-ce qu'elle pourrait l'enlever? Et s'il me voulait une miséricorde, est-ce qu'elle pourrait la retenir? Donc ça veut dire ce que vous adorez en dehors d'Allah, est-ce qu'elles peuvent retenir le mal qu'Allah m'a destiné ou le bien qu'Allah m'a destiné? Kul hasbi Allah. Donc hasbi Allah, c'est-à-dire Allah me suffit. Et c'est sur lui que doivent se remettre al-mutawakkilun, ceux qui s'en remettent. Donc il dit al-ma'na al-ijmali lil-aya ya'muru Allah nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam an yas'al al-mushrikeen su'ala inkarin an asnamihim. Donc Allah il ordonne à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de poser une question aux mushrikin, aux polythéistes, qui est en fait, c'est pas une vraie question, c'est pas pour demander, c'est pas une information. Dis-moi, est-ce que ta divinité elle peut enlever le mal? C'est pas ça qui est voulu. C'est une question dont la réponse est connue. C'est sous al-intar, c'est une question pour dire en fait, pour blâmer la personne, pour renier ce qu'il fait à propos de leur statut qu'elles adoraient avec Allah. هل تقدروا على النفع والضر? Est-ce qu'elles peuvent être utiles ou nuire à quelqu'un? فَلَا بُدَّ أَنْ يَعْتَرِفُوا بِعَجْزِهَا عَنْ ذَلِكَ. Et forcément, ils vont reconnaître qu'elles s'en sont incapables. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ بَطُلَتْ عِبَادَتُهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Et s'il en est ainsi, alors leur adoration en dehors d'Allah, elle est nulle. Et vous remarquez que donc, Quraysh, eux, ils croyaient même pas que leur statut elle pouvait nuire ou ramener du bien en dehors d'Allah, contrairement aux mushrikines de notre époque. Simplement, il leur demandait l'intercession envers Allah, c'est tout. Et donc, si elles peuvent ramener ni du bien ni du mal, alors à quoi ça sert de les adorer? Parce qu'une personne, elle adore et elle voue une religion envers quelqu'un qu'elle adore, c'est pour une maslaha. C'est parce que c'est pour être sauvé d'un châtiment ou pour avoir du bonheur, etc. Et si tout ce qui est en dehors d'Allah, il peut ni te nuire ni t'apporter du mal, alors c'est nul de l'adorer. Ça veut dire c'est quand je dis c'est nul, ça veut dire c'est batil, ça veut dire c'est faux, c'est n'importe quoi.
مناسبة الآية للباب أن فيها دليل عن دليلا على بطلان الشرك.
Pourquoi il a mis ce verset? C'est parce qu'il prouve la nullité du polythéisme.
ولبس الحلقة والخيط من ذلك.
Et le fait de porter un bracelet ou un fil, ça en fait partie. لا يكشف الضر ولا يمنع منه. Parce que ça n'empêche pas le mal et ça ne l'enlève pas.
ما يستفاد من الآية.
Donc ce qu'on profite du verset.
بطلان الشرك لأن كل ما يعبد من دون الله la yamliku darran wa la naf'an li'abidihi.
La nullité du shirk, dans le sens où tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ne possède ni le bien ni le mal pour celui qui l'adore.
At-tahdhir min libs al-hilqati wal-khayt wa ghayriha li jalb an-naf'i aw daf'i ad-dar li'annahu shirk min jins ma yurad min al-asnam.
La mise en garde contre le fait de porter les hilqa, donc les bracelets et les fils, et autre que cela, c'est-à-dire tout ce qui est entre guillemets les porte-bonheur, pour avoir un bien ou repousser un mal, parce que c'est du polythéisme, c'est du shirk, comme le polythéisme qui était recherché des statues, parce que ceux qui adorent les statues et en dehors d'Allah, donc là il parle des autres mushrikines, parce que Quraysh, ce qu'ils voulaient de leur statue pour la majorité d'entre eux, c'était juste l'intercession. Mais en général, surtout à notre époque, quand ils adorent des statues, c'est pour avoir du bien ou repousser un mal. Donc celui qui fait ça avec un bracelet ou un fil, ça ressemble à l'adoration de ceux qui adorent les statues. La seule différence, c'est que il s'est pas prosterné devant son fil ou devant son bracelet.
Mashru'iyyat munadharat al-mushrikin ibtal al-shirk.
Le fait qu'il ait légiféré de dialoguer et d'argumenter avec les polythéistes pour anéantir leurs arguments et leur polythéisme.
Wujubu i'timadi 'ala Allah wahdahu.
Le fait qu'il est obligatoire de s'en remettre à Allah seul et de remettre nos affaires à Allah, toutes nos affaires à Allah. Ensuite, quel est le jugement? Ça veut dire, est-ce que c'est du shirk majeur qui fait sortir de l'islam ou du shirk mineur qui ne fait pas sortir de l'islam? En fait, ça revient à, est-ce que la personne, quand elle fait ça, qu'est-ce qu'elle croit dans son bracelet ou dans son pneu ou son fer de cheval ou sa main de Fatima? Si elle croit que ce bracelet, il repousse par lui-même le mal, si vous regardez bien, ça revient à croire que Allah te destine un mal et ce bracelet peut le repousser. Donc c'est voué à ce bracelet et lui discerner des caractéristiques d'Ar-Rububiyya. C'est lui discerner des caractéristiques d'Allah. Repousser un mal qu'Allah a destiné. Donc c'est le maître associé à Allah. Là c'est du shirk akbar. Mais s'il croit que c'est un sabab, et ça c'est le plus souvent, s'il croit que porter ce bracelet c'est une cause pour qu'Allah le protège, là c'est du shirk asrar. Et en quoi c'est du shirk asrar? Pour les mêmes raisons qu'on avait expliqué avec les augures, at-tatayyur. On avait expliqué pourquoi les augures c'est du shirk, pourquoi ça s'appelle shirk, pourquoi c'est pas seulement un péché. C'est parce qu'il a déclaré comme cause à la protection d'Allah ce qu'Allah n'a pas déclaré comme cause. Or ce genre de choses, il n'y a qu'Allah qui peut les déclarer. Qu'est-ce qui est une cause pour avoir la protection d'Allah? Il n'y a qu'Allah qui peut déclarer telle et telle chose sont une cause pour ma protection. Et lui, il a rajouté une cause sans preuve. Donc il a affirmé quelque chose dans le raïb, dans l'invisible, qui n'a pas de réalité. Donc il a commis du polythéisme, du shirk, de l'association à Allah dans ce sens-là.
C'est comme une innovation,
hein? C'est de l'innovation en plus, oui, bien sûr, ouais, ça, c'est clair.
عن عمران بن
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك.